qu'ils ne soient pas seulement châtiés comme des chiens enragés, mais jugés avec le droit, jugés avec des preuves, jugés avec la conscience des hommes.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Nuremberg et Tokyo, comment a-t-on jugé les crimes de la Seconde Guerre mondiale? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Annette Wiewiórka. Aujourd'hui, troisième épisode, le génocide des Juifs et le verdict. Dans les premiers mois du procès de Nuremberg, la question de la persécution des Juifs est évoquée, mais de manière dispersée. Ce n'est qu'en janvier 1946 que le génocide fait son entrée dans le tribunal, avec l'audition pour la première fois d'un acteur du génocide, Otto Oehlendorf, qui faisait partie des Einsatzgruppen, ces commandos qui, lors de l'invasion de l'URSS, avaient reçu l'ordre de liquider les Juifs. « Quand vous dites liquider, demande le procureur, voulez-vous dire abattu ? Oui, je veux dire assassiné. Y compris les enfants ? Oui. Tous les enfants juifs ont été massacrés ? Oui, tous. » répond Oehlendorf, qui avoue sa responsabilité dans la mort de 90 000 personnes. Vient à la barre un autre témoin capital, Dieter Wisle-Seni, qui va révéler le rôle d'Adolf Eichmann dans le projet, appelé « Solution finale », d'exterminer tous les Juifs d'Europe. À l'époque du procès de Nuremberg, le nom d'Eichmann est inconnu, et surtout son rôle dans le génocide. En apprenant dans les journaux la déposition de Wisle-Seni, Eichmann, qui se fait passer alors pour mort, organise sa cavale qui le conduira en Argentine où en 1960, il sera enlevé par les services secrets israéliens pour être jugé.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Le 15 avril 1946, donc 5 mois après le début du procès de Nuremberg, c'est le témoignage de Rudolf Höss, commandant SS du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui va révéler la spécificité de ce centre de mise à mort destiné aux Juifs. Il raconte à la barre comment il a été convoqué par Heinrich Himmler, qui lui ordonne de transformer le camp d'Auschwitz en centre d'extermination. Et il décrit en détail le fonctionnement des chambres à gaz et des fours crématoires, et affirme avoir mis à mort près de 3 millions de Juifs. Les historiens ramèneront ce chiffre à 1 million de morts. À la pause déjeuner, le témoignage de Höss provoque un lourd silence chez les accusés. Göring tente de remonter le moral de ses camarades en assurant que ce Rudolf Höss est forcément un Allemand du Sud. Jamais un Prussien n'aurait fait cela. Mis à part Hans Frank, qui était chargé en Pologne de l'extermination des Juifs, tous les accusés de Nuremberg, jusqu'au bout du procès, nieront avoir eu connaissance de la persécution des Juifs. Le 30 septembre 1946, dans un palais de justice en état de siège, protégé par une garde renforcée, le tribunal de Nuremberg doit rendre son verdict. La salle bondée retient son souffle. 18 accusés sont déclarés coupables, 11 sont condamnés à mort, 7 à de lourdes peines de prison et 3 sont acquittés. Tous les recours en grâce ayant été refusés, les condamnés à mort sont pendus le 16 octobre, sauf Göring, qui s'est suicidé en absorbant une capsule de cyanure. Les corps des condamnés, Göring compris, sont incinérés et leurs cendres dispersées dans la rivière Isar afin d'empêcher tout culte sur les tombes des défunts.
Et 12 fois l'on entendra, comme pour Ribbentrop, la parole fatidique « Death by hanging, la mort par pendaison ».
On the counts of the indictment, the tribunal sentences you to death by hanging. Defendant,
pour Keitel, la mort par pendaison. Pour Göring, la mort par pendaison.
On which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging.
La corde pour 11 coupables, la prison pour 7 autres, la grâce pour 3. Nuremberg sera maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance, mais d'une morale plus haute. Au-dessus des maîtres du siècle, il y a une justice.
Annette Wiewiórka, le procès de Nuremberg, qui a duré presque un an, s'achève. Vous écrivez dans votre livre qu'il a été à la fois productif et décevant. Pourquoi ?
Ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est que Nuremberg, et puis on verra après Tokyo, ce sont des procès de fin de guerre, qui ferment la porte de la guerre. Mais le désir de certains juristes, c'est de mettre sur pied une vraie justice internationale. Or, on plonge immédiatement dans la guerre froide. Donc, toute possibilité d'une justice internationale est comme gelée par la guerre froide. Et ça va reprendre, après la chute de l'Union soviétique, quand il sera possible de refaire des tribunaux ad hoc, La Haye et Arusha. Donc, ça a été un procès très productif. Et le crime contre la paix, dont il n'a plus été question après Tokyo, il revient au moment de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et un juriste international, qui est aussi un écrivain historien, Philippe Sand, décide qu'il faut recréer un tribunal dans le droit fil du droit de Nuremberg pour juger Poutine. Donc on a une extraordinaire productivité ou postérité des procès de Nuremberg. Alors, tous les procès sont toujours décevants.
Mais quelles sont ses faiblesses ?
Peut-être qu'il y a deux faiblesses dans ce procès, deux faiblesses majeures. La première faiblesse, c'est que s'il est question de guerre d'agression, on aurait dû mettre l'Union soviétique aussi au banc des accusés, puisque le 17 septembre 1939, l'Union soviétique envahit à son tour la Pologne et que l'on sait par les protocoles secrets qu'ils se partagent la partie orientale de l'Europe, les Pays-Bas, et un bout de la Pologne. Donc, de ce côté-là, il y a quand même quelque chose qui peut sembler un peu...
Et le massacre de Katyn.
Et puis le massacre de Katyn. 15 000 officiers polonais qui sont faits prisonniers, et on retrouve les corps de 4 000 d'entre eux dans la forêt de Katyn. Et dans l'acte d'accusation, les soviétiques réussissent à faire inscrire les morts de Katyn sur le compte des nazis. Alors que toutes les preuves, l'état des corps, le modus operandi qui est la balle dans la nuque, les papiers qui sont retrouvés sur les officiers montrent que ce n'est pas possible, que c'est la période où cette partie était occupée par les soviétiques. Mais malgré tout, quand Katyn arrive au procès, trois témoins défendent la thèse soviétique, trois autres démontrent que cette thèse est inepte, et dans le jugement, Katyn s'est volatilisé. Donc, il y a un des quatre qui... qui a commis guerre d'agression et au minimum crime de guerre.
Une chose m'a étonnée, Anna Vivurkin, en préparant cette émission. Pour le verdict, le tribunal est protégé, gardé comme un bunker. Il y a des juges qui circulent en voiture blindée. De quoi est-ce qu'on a peur à ce moment-là ? On a peur d'une résurgence nazie ?
Je crois qu'on peut avoir peur d'une résurgence nazie. Parce que, bon là on est très très loin, mais les nazis sont jeunes. Et jusque dans les années 50, vous avez eu un certain nombre de nazis qui ont pensé qu'il pourrait reprendre le combat et que la défaite n'était que momentanée, que la démocratisation de l'Allemagne à laquelle se sont employés les alliés, enfin de l'Allemagne dans la partie occidentale bien sûr, c'était quelque chose de provisoire.
Et aussi, c'est important, Nuremberg rejette l'immunité des chefs d'État, établit la responsabilité individuelle des dirigeants et rejette la défense fondée sur l'obéissance aux ordres.
Absolument.
On ne peut pas dire j'ai obéi à Hitler,
j'ai obéi aux ordres et en fait j'ai rien fait, je ne suis pas responsable. Ce qui a été la stratégie de défense d'Eichmann à Jérusalem. Mais
1961.
Ce qui est important, c'est que le criminel n'est pas le soldat qui va faire un crime contre des civils ou qui va assassiner un prisonnier de guerre dont il a la garde. C'est pas ça que l'on veut. On veut traîner en justice les hauts responsables. Donc c'est très important comme notion qui est que ce ne sont pas les sous-fifres, même si les sous-fifres peuvent être assez élevés, mais ce sont vraiment les chefs qui sont responsables.
Et le crime contre l'humanité est donc entré pour la première fois dans un procès.
Alors le crime contre l'humanité est rentré pour la première fois dans le procès, mais il est rentré quand même de façon limitée, puisque la définition du crime contre l'humanité, le crime contre l'humanité ne peut être commis que en lien avec le crime contre la paix. Ça veut dire que on ne pourra juger le crime contre l'humanité que quand ça concerne la Seconde Guerre mondiale. Alors depuis, le droit français a découplé ce crime. Donc maintenant, le crime contre l'humanité est indépendant
de la Seconde Guerre mondiale.
Mais ça a mis quand même beaucoup d'années.
Merci à Nadia Viorca. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre procès des crimes de la Seconde Guerre mondiale, un peu oublié, le procès de Tokyo.